Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de France Culture avec Sébastien de Courtois, nous sommes en compagnie d'un jeune doctorant, François Pacha Miran, 27 ans, doctorant à l'école pratique des hautes études, pour évoquer ensemble l'histoire d'une Bible, syriaque datant du 6e siècle, qui est la plus ancienne Bible illustrée. Elle est conservée dans les collections de la Bibliothèque nationale. Bonjour François Pacha Miran.
Bonjour.
Alors pour commencer, comment avez-vous trouvé ce sujet et ce manuscrit? Bon, il est connu, mais il n'est pas connu quand même du grand public. Je crois qu'il est connu des spécialistes, parce qu'il s'agit d'un trésor inestimable.
Mon premier contact avec ce manuscrit est assez ancien, puisque c'est au moment où j'ai commencé mes études d'histoire de l'art à l'école du Louvre. Et une de nos enseignantes nous présentait les plus anciens manuscrits chrétiens illustrés, parmi lesquels figurait cette Bible, qui, pour être tout à fait honnête avec vous, n'a pas suscité beaucoup d'intérêt de ma part de prime abord. Et c'est seulement 3 années plus tard, lorsque je me suis inscrit en master de recherche à l'école pratique des hautes études, que ma directrice de mémoire, Johanna Rapti, m'a proposé d'étudier ce manuscrit qui effectivement était connu des spécialistes, mais n'avait pas été publié de façon approfondie et en tout cas n'avait donné lieu à aucune recherche depuis une trentaine d'années.
Est-ce que vous avez pu vous-même travailler sur le livre en tant que tel ?
En effet, et par chance, assez rapidement, puisque nous avons eu accès au département des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France, où le manuscrit est conservé depuis près d'un siècle, qui n'était pas encore en grande réserve, et ensuite il a été déposé dans les grandes réserves qui sont les lieux de conservation des manuscrits les plus précieux. En cours de route, en 2015, le manuscrit a été numérisé. Donc, il est donc consultable librement sur Gallica, la base des manuscrits numérisés de la Bibliothèque nationale.
Sur le contexte un petit peu de voyage de ce manuscrit, donc nous sommes sur une Bible du 6e siècle, un manuscrit syriaque, avons-nous précisé en introduction, et comment est-elle arrivée dans les collections nationales ?
Alors c'est une histoire à la fois rocambolesque et tragique qui fait que ce manuscrit, au début du XXe siècle, est acquis par la Bibliothèque nationale de France. L'histoire commence dans les années 1900, au sud-est de l'actuelle Turquie, dans la ville de Sète. C'est là que le manuscrit était conservé, semble-t-il, depuis le XVIe siècle. L'archevêque, qui avait la responsabilité des communautés syriaques chaldéennes de cette ville, Monseigneur Adaïcher, était un orientaliste renommé, un très grand amoureux de l'histoire de l'Église et un traducteur infatigable. Et il avait sous sa responsabilité une collection de manuscrits, pour certains extrêmement anciens. Au début du XXe siècle, sous la pression des factions armées, à l'aube de ce qui va être le Seyfo, le génocide des populations syriaques de l'Empire ottoman, Monseigneur Cher prend conscience du risque que courent ces manuscrits. Et il est rattrapé par une autre réalité, c'est l'extrême pauvreté de sa communauté. Il va donc chercher à vendre certains manuscrits, dans le but d'entretenir les finances de son diocèse, qui sont catastrophiques. Il cherche donc à vendre ses manuscrits, et son premier interlocuteur, c'est un négociant allemand de Leipzig, qui s'appelle Hesemann et qui est spécialisé dans les études orientales, entre autres domaines.
Nous sommes en quelle année ?
Nous sommes dans les années entre 1906 et 1908.
Donc avant la Première Guerre mondiale.
Avant la Première Guerre mondiale. Et donc, cet Allemand, Hesemann, est très intéressé par les manuscrits de Sète, mais en réalité, l'archevêque se montre très prudent. Il ne connaît pas la valeur des manuscrits et il n'est pas sûr de la fiabilité de son interlocuteur. Donc très rapidement, par prudence, il va préférer confier les manuscrits à la Bibliothèque nationale et cette acquisition a lieu au début de l'année 1909. C'est un premier fragment du manuscrit qui arrive l'essentiel de l'Ancien Testament et quelques feuillets du Nouveau Testament. Et puis dans les années qui suivent, avant 1913, une série d'autres feuillets, qui sont pour eux du Nouveau Testament, sont acquis dans un deuxième temps. C'est un véritable sauvetage qui a lieu, puisque la situation pour les communautés chrétiennes de Turquie se dégrade très rapidement. Cher est arrêté par l'armée ottomane en 1915. L'archevêché de Sert est incendié, ce qu'il reste de la bibliothèque disparaît dans l'incendie, et l'archevêque lui-même est torturé et finalement décapité par les Turcs le 21 juin 1915.
On peut saluer la mémoire de ce prélat et surtout sa vision, cette idée de préservation, donc d'avoir voulu céder et confier à d'autres ces manuscrits si importants. Est-ce qu'on sait comment le manuscrit a voyagé, comment il est arrivé en France? Est-ce qu'il est arrivé tout de suite ou est-ce qu'il y a eu peut-être des étapes intermédiaires avec d'autres manuscrits peut-être? Était-ce le seul qui avait été acquis à l'époque?
Nous savons que l'acquisition s'est opérée sans intermédiaire. Monseigneur Cher était venu à Paris à l'hiver 1908, et c'est probablement à ce moment-là que les tractations ont conduit à conclure cet accord.
Alors, rentrons dans le détail maintenant de cette Bible. 24 miniatures retracent la geste de l'Ancienne Alliance et illustrent les hauts faits des prophètes, esquissent les contours d'un programme iconographique élaboré et sans équivalent. Nous connaissons les enlumineurs dans le monde arménien, dans le monde byzantin, mais peut-être un peu moins dans le monde syriaque. Pourquoi ?
Bien, le christianisme syriaque, depuis les premières études qui ont été consacrées à sa tradition artistique, a toujours eu la réputation d'une certaine méfiance envers l'image. Réputation de méfiance qui est due essentiellement au très petit nombre d'enluminures qui nous sont parvenues. Pour une raison toute simple, c'est d'abord parce que les manuscrits si anciens sont fort rares. La Bible syriaque de Paris fait partie d'un corpus restreint de manuscrits que l'on peut dater stylistiquement entre le 5e et le 6e siècle. Parmi ces manuscrits, l'essentiel sont des manuscrits grecs, on compte aussi des manuscrits latins et arméniens. En réalité donc, le peu d'images qui nous sont parvenues de l'Antiquité tardive pour le monde syriaque ont souvent laissé entendre que les chrétiens syriaques avaient un certain malaise vis-à-vis de l'utilisation des images.
Est-ce que nous pouvons aussi expliquer le fait qu'il y a très peu d'icônes dans le monde syriaque ?
Le rapport à l'image, à mon sens, dans le monde syriaque passe essentiellement par l'écrit, par la verbalisation des images. Et c'est peut-être la raison pour laquelle elles sont moins nombreuses dans les manuscrits ou dans le décor des églises. Ce dont il faut être conscient également, c'est que les manuscrits qui nous sont parvenus, dans l'ensemble, ne sont pas dans un excellent état de conservation, à l'exception, bien sûr, d'une des œuvres les plus célèbres de l'Antiquité tardive, qui est l'Évangile de Rabula, qui est conservé à Florence.
Et qui date aussi du 6e siècle.
Et qui date également du 6e siècle.
Voilà. Le 6e siècle a été véritablement ce siècle de foisonnement intellectuel et artistique. Vous mentionniez l'école du Louvre tout à l'heure, donc vous avez un parcours plutôt inhabituel pour un chercheur, pour un historien. L'école du Louvre étant pas forcément une case par laquelle on passe, mais ça vous a aiguisé le regard peut-être. Vous avez eu un regard artistique sur ces enluminures. Qu'est-ce qu'elles vous indiquent sur le peintre, sur la volonté de ce peintre?
Alors effectivement, la formation que j'ai reçue à l'école du Louvre avait pour vocation d'aiguiser le regard. Il faut savoir que j'ai été essentiellement formé par des professeurs d'archéologie. C'est donc cette approche matérielle du livre qui m'a intéressé de prime abord. Évidemment, les miniatures trahissent également une tradition artistique dans laquelle les peintres s'inscrivent, qui est celle de la fin de l'Antiquité. Une fin d'Antiquité où les références à l'art romain de l'époque classique sont multiples, et où les artistes multiplient les expérimentations iconographiques. Nous sommes à l'aube de la fixation des grandes formules iconographiques qui font aujourd'hui la célébrité de l'art byzantin, et de l'art de l'Orient chrétien dans son ensemble. Et donc, dans ce creuset qu'est le monde syriaque en cette fin d'Antiquité, on voit apparaître de nombreuses formules iconographiques, dont certaines vont être promises à un long avenir et d'autres rester sans lendemain. C'est sous cet angle que j'ai abordé l'étude du décor de la Bible syriaque de Paris, en cherchant à la fois des comparaisons, des parallèles avec des œuvres existantes, mais en montrant aussi la spécificité, l'originalité de ce manuscrit, ce qui en réalité en fait une œuvre profondément syriaque.
Que voulez-vous dire en œuvre profondément syriaque par rapport à d'autres traditions? Quels sont les traits qui pourraient la qualifier?
Eh bien, le monde syriaque a généralement été considéré comme une frontière éloignée, esselée du monde byzantin. Une province assez coupée des centres artistiques dans lesquels les formules iconographiques les plus célèbres sont réputées avoir été conçues. Ce qu'on observe à l'étude du décor de la Bible syriaque de Paris, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire une très grande inventivité. Cette inventivité, comment se traduit-elle? Eh bien, à travers un regard typologique. Ce manuscrit contient les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, et l'essentiel des images qui sont conservées concerne l'Ancien Testament. Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que les artistes qui ont été responsables de la réalisation de ce manuscrit ont cherché à mettre en avant les parentés, les analogies entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Comment les figures et les événements de l'Ancienne Alliance préfigurent l'incarnation du Christ, sa mort et sa résurrection. On peut donc observer un certain nombre d'images qui sont sans équivalent, et qui pour certaines d'ailleurs n'ont eu aucune postérité. Des images qui nous parlent de la manière dont les textes de l'Ancien Testament ont été perçus, la manière dont ils étaient vécus au sein des communautés. Et c'est aussi là que réside tout l'intérêt de ce trésor artistique qu'est la Bible syriaque de Paris, parce que la plupart des images qui nous sont conservées ne connaissent pas de parallèle dans d'autres manuscrits.
Nous sommes ce matin dans Chrétien d'Orient sur France Culture avec François Pacha Miran pour évoquer le décor de la Bible syriaque de Paris. Alors François, on a aussi en mémoire et en tête, pour ceux qui s'intéressent à l'Orient et ses voyageurs, à la figure de l'abbé Leroy, qui a été un découvreur extraordinaire de manuscrits, de lieux, qui a écrit de nombreux livres depuis l'Éthiopie jusqu'à la Syrie, au sud-est de la Turquie, l'Irak. D'une certaine manière, est-ce que vous avez un peu l'impression de continuer son travail, parce que lui aussi avait ce regard justement artistique?
Alors je pense que je n'ai ni l'érudition ni l'envergure intellectuelle de l'abbé Leroy, qui effectivement a été un fondateur de la recherche en iconographie syriaque et qui est particulièrement connu pour ses travaux sur les manuscrits illustrés. Cela dit, effectivement, j'estime que le travail que j'accomplis se situe dans son sillage. En tout cas, il lui est largement redevable. Ne serait-ce que parce que Leroy, finalement, a contribué à la mise en place d'une certaine image du chercheur. Le moine érudit, aventurier infatigable, passionné de manuscrits, et finalement qui a contribué par son travail à la fois à une meilleure connaissance de la culture des églises de tradition syriaque, mais également à la préservation d'un grand nombre de manuscrits, non seulement ici en Europe occidentale, mais également au Proche-Orient.
Nous parlions du VIe siècle, du rapport au texte et à ses nombreux manuscrits, ou peut-être moins nombreux quand on parle de Bible à la fois sur complète, hein, sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y aurait, donc vous avez évoqué un autre manuscrit qui est à Florence, est-ce qu'il y a de grands équivalents dans d'autres traditions datant à peu près de la même époque?
Le fait que le manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale soit appelé Bible syriaque de Paris en est déjà un indice. C'est un titre qu'on lui donne, elle a l'honneur d'être associée à la ville où elle est conservée, comme c'est le cas par exemple de la Genèse de Vienne, qui est conservée à la Bibliothèque nationale d'Autriche, ou encore des évangiles de Rossano, qui sont au musée diocésain de Rossano de Calabre. Il y a effectivement un petit corpus d'une quinzaine de manuscrits, et parmi les plus précieux figurent des œuvres célébrissimes pour les historiens de l'art, comme la Genèse de Vienne, donc un manuscrit grec de la Genèse, probablement copié et enluminé en Syrie au cours du VIe siècle, un manuscrit d'un luxe exquis, copié sur des pages de parchemin pourpre à l'encre d'argent, avec une multitude d'enluminures. On pourrait citer également les évangiles de Rossano, donc, qui sont conservés en Calabre, également un manuscrit grec des évangiles sur des feuilles de parchemin pourprées, ou, un peu moins connu mais tout aussi intéressant, le Pentateuque de Tours, qui est également conservé à la Bibliothèque nationale de France, et donc un manuscrit de la fin du VIe ou du début du VIIe siècle qui contient les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, cette fois rédigés en latin, et qui pourrait avoir vu le jour en Italie ou en Syrie, ça reste encore à définir.
Vous évoquiez tout à l'heure des grands centres de production pour ces images illustrées. Lesquels étaient-ils ?
L'historiographie a généralement considéré que la capitale de l'Empire romain d'Orient, Constantinople, avait été l'un de ces centres, en raison de la présence de la cour impériale et donc de commanditaires fortunés aptes à commander des manuscrits. Un exemple assez célèbre, c'est le manuscrit des œuvres de Dioscoride, conservé à Vienne, et dont on pense qu'il a été commandité par une proche de la cour impériale, Anicia Iuliana, dans les années 510. Donc un exemple qui évidemment a marqué la recherche sur les manuscrits illustrés. Antioche, dans la province de Syrie à l'époque, fait également partie de ces centres réputés pour avoir concentré des ateliers et exporté des modèles aux frontières de l'Empire. En réalité, l'étude approfondie des manuscrits syriaques illustrés de l'Antiquité tardive a tendance à prouver que la haute Mésopotamie, cette région au croisement de la Syrie du Nord, de l'Irak et du Sud de la Turquie, n'était pas une région lointaine et enclavée. C'était un carrefour. C'était un carrefour entre l'Empire romain d'Orient, entre la Syrie, région prospère, un carrefour avec la Mésopotamie, et dont les routes menaient au nord vers l'Arménie et le Caucase, l'Anatolie et l'Asie centrale. En réalité, donc, pour la culture syriaque, cette région de haute Mésopotamie est un creuset de création artistique tout à fait remarquable.
Est-ce que nous savons où ce manuscrit a été produit, a été conçu ? Est-ce qu'il y a des indications sur son origine géographique ?
Plusieurs localités ont été évoquées. La région donc de haute Mésopotamie compte plusieurs métropoles qui auraient pu être impliquées dans cette réalisation, peut-être Nisib, peut-être Mossoul, peut-être Mardin, peut-être même Sète où le manuscrit était conservé jusqu'en 1909. Malheureusement, nous n'avons pas d'éléments concrets, pas de colophon, pas de signature du copiste qui nous permettent de dire où était situé l'atelier.
Quels sont les instruments du peintre à l'époque, de ces artistes ? Est-ce que nous savons un peu plus comment ces couleurs étaient conçues, ces dessins façonnés ?
Alors sur les instruments du peintre, nous sommes malheureusement pauvres en information. En revanche, sur les pigments utilisés pour la réalisation des couleurs et donc des miniatures, la Bible syriaque de Paris a eu la chance de bénéficier de deux campagnes d'analyse des pigments. Campagnes qui ont eu lieu au mois de décembre 2018 et au mois de septembre 2019, donc des campagnes récentes menées par une équipe de chercheurs italiens et qui ont donné des résultats tout à fait inattendus. Les miniaturistes qui ont réalisé ce manuscrit ont puisé dans une palette extrêmement coûteuse. Certaines miniatures trahissent l'emploi de l'azurite, qui est un des composants du lapis lazuli, donc qui permet de créer la couleur bleue outre-mer, un pigment extrêmement coûteux. Nous avons détecté également la présence du cinabre, qui donne un rouge très vif, qui était extrait fort loin de la Mésopotamie, donc autre pigment très onéreux. Une palette très diversifiée, avec des nuances de couleurs subtiles, des tons pastels qui, justement, ont fort bien traversé les siècles, ont gardé toute leur fraîcheur. Et puis surtout, surprise à laquelle on s'attendait le moins, ces analyses des pigments ont confirmé que les peintres avaient utilisé de l'or en poudre pour rehausser le fond des miniatures, ce qui aujourd'hui ne se voit quasiment plus, mais dont on détecte la présence à la fois grâce aux mesures spectroscopiques, mais également grâce à l'observation au microscope.
Alors ce sont des illustrations qui évoquent des passages de l'Ancien Testament. Je vois par exemple l'Arche d'Alliance dans la demeure. On est frappé, ces images vont être disponibles sur notre page internet, donc en lien avec les pages de Gallica, donc les auditeurs pourront les consulter. Nous sommes frappés par la vivacité de ces couleurs qui ont plus de 15 siècles.
Tout à fait, et c'est probablement dû à la fois à la qualité des pigments qui ont été employés, mais également à l'excellente conservation du manuscrit, qui est une conséquence directe de sa valeur monétaire. Il faut savoir que la réalisation d'un manuscrit de cette ampleur peut aujourd'hui nous sembler quelque chose d'assez commun. En réalité, pour une communauté chrétienne de la fin de l'Antiquité, c'est une réalisation extrêmement onéreuse, coûteuse en temps comme en moyens matériels.
Un engagement collectif peut-être, une participation du clergé, des mécènes de l'époque ?
Très probablement. Là encore, il est difficile de trancher, mais il est très probable que sous la houlette d'un personnage, peut-être un évêque, peut-être un supérieur de monastère, plusieurs aient uni leurs forces pour réunir les fonds nécessaires, effectivement.
Alors sur le style de ces illustrations, nous avons évoqué tout à l'heure la possibilité d'un style, d'une singularité, disons, du style syriaque, mais je vois quand même des motifs qui vous évoquiez l'Antiquité tardive. Ces motifs semblent venir tout droit quand même de l'histoire de l'Empire romain, ou pas ?
Effectivement, il y a un certain nombre de motifs placent l'enluminure syriaque dans la continuité de l'art romain, ce que finalement on constate dans l'ensemble de l'art paléochrétien. Il n'y a pas de revendication d'une nouveauté quelconque, on s'inscrit dans la culture romaine qu'on a reçue en tant que chrétien. C'est la raison pour laquelle les prophètes sont vêtus à l'antique, d'une tunique et d'un manteau, c'est la raison pour laquelle ils tiennent un rouleau, que tenaient déjà les figures de philosophes ou les figures d'orateurs dans l'art romain, que vous pouvez observer par exemple dans la sculpture des sarcophages. Le décor ornemental également est tout à fait imprégné par ce langage artistique de l'Antiquité romaine. On pourrait citer les rinceaux de vigne, par exemple, qui sortent de vases, qui sortent de canthares, les oiseaux affrontés, les motifs géométriques sont autant d'indices de ces emprunts au langage visuel de l'Antiquité classique.
Alors je vois une très belle illustration de Moïse et Aaron devant Pharaon, frontispice de l'Exode, hein, une illustration qui vous inspire quelque chose ?
Alors, c'est l'illustration la plus célèbre et c'est d'ailleurs la première que j'ai vue et par laquelle j'ai eu connaissance du manuscrit. C'est une illustration dont on pourrait longuement parler, elle tranche en réalité avec le reste du manuscrit par son dynamisme, qui laisse peut-être entendre qu'un autre peintre en a été chargé. Un dynamisme tout à fait inattendu, on a l'impression que les figures vont sortir de la miniature pour montrer la colère de Moïse et d'Aaron qui supplient le roi d'Égypte de laisser partir les Hébreux.
François Pachamiran, je voudrais vous remercier d'être venu jusqu'à nous. Nous, on vous sent passionné, habité par votre sujet. Nous vous souhaitons plein de bonnes choses pour la continuité de vos recherches et de votre thèse.
Merci beaucoup.
Nous étions dans Chrétien d'Orient ce matin. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Le décor de la Bible syriaque de Paris et son rôle dans l'histoire du livre chrétien. François Pachamiran, un livre qui est disponible aux éditions Göttner à Paris. Je remercie Émilie Couette, François Connac et Claire Poinsignon pour la réalisation et la technique de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Bon dimanche.